Vous écoutez, on lit pour vous.
Où peut-on en avoir pour son dollar? Un texte d'Isabelle Dubé, paru le 23 mars 2025 dans la presse. Pas de doute, les Québécois veulent continuer de voyager malgré la faiblesse de notre devise canadienne. Dans ce contexte, le choix de la destination peut faire toute la différence. Dans quel pays, donc, un Québécois se sentirait-il plus riche ou très pauvre? Tour d'horizon en 10 destinations. Où on se sent plus riche? Tunisie. Coût de la vie, 55,1% inférieur à celui du Canada. Trio dans un resto rapide, 7 $, 15 $ au Canada. Hôtel 3 étoiles pour 2, 5 juillet, de 47 $ à 112 $. Ceux qui boudent la Floride risquent de se retrouver sur les plages tunisiennes, affirme Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel. On n'a jamais vendu autant de séjours en Tunisie, notamment les 3 semaines avec vol direct en formule tout inclus à 2 500 $. Les gens peuvent faire des excursions dans des endroits magnifiques et dépaysants. Le Maroc n'est pas cher non plus et se compare à la Tunisie, soutient Sandra Trépanier d'Explorateur Voyage, qui organise des excursions partout dans le pays. Vietnam. Coût de la vie, 54,5% inférieur à celui du Canada. Trio dans un resto rapide, 6 $ 75, 15 $ au Canada. Hôtel 3 étoiles pour 2, 5 à 6 juillet, de 21 $ à 78 $. En Asie du Sud-Est, on en a vraiment pour notre argent pour l'hébergement, les repas et les transports, indique Sandra Trépanier, qui organise des séjours sur mesure avec chauffeur au Vietnam. La nourriture est excellente, les gens sont gentils et les paysages diversifiés, plages, montagnes, rivières. C'est plus avantageux que l'attrait touristique Thaïlande et plus intéressant que le Laos. Attention, prévient la chroniqueuse Voyage Marie-Julie Gagnon, parce que quand on se sent soudain bien riche, on peut se laisser emporter par tout ce qu'on peut se procurer et on n'économise plus. Colombie. Coût de la vie, 52,5% inférieur à celui du Canada. Trio dans un resto rapide, 10 $ 42, 15 $ au Canada. Hôtel 3 étoiles pour 2, 5 juillet, de 52 $ à 168 $. J'ai fait 2 semaines en transport collectif en Colombie, au fait, avec 3 enfants de 7, 9 et 11 ans, dans des zones rurales et modestes, relate Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel. Les cartels de la drogue, la criminalité et la corruption volent le show dans les médias, mais à aucun moment on ne s'est senti en danger. Les gens sont accueillants. Le coût de la vie est ridicule. Il y a du patrimoine, de la nature, du culturel à voir. On a adoré. Il ne faut toutefois pas être pressé quand on se déplace. Albanie. Coût de la vie, 30,3% inférieur à celui du Canada. Trio dans un resto rapide, 12 $ 42, 15 $ au Canada. Hôtel 3 étoiles pour 2, 5 et 6 juillet, de 40 $ à 170 $. Voisine de la Grèce, l'Albanie est la prochaine Croatie, déclare Andrew Damour de Fly Trippers. C'est beau, pas cher, sûr et encore authentique. Les infrastructures touristiques ne sont pas aussi développées qu'ailleurs en Europe, mais l'Albanie est en train d'ouvrir un nouvel aéroport directement sur la côte. D'ici quelques années, ça va se développer en fou et ce sera bondé. C'est l'endroit où aller avant que ça devienne trop populaire. C'est mon coup de cœur. J'y suis allé 2 fois. Cuba. Coût de la vie, 30,9% inférieur à celui du Canada. Trio dans un resto rapide, 9 $ 95, 15 $ au Canada. Hôtel 3 étoiles pour 2, 5 juillet, de 39 $ à 178 $. Cuba, ne s'est pas complètement relevé de la pandémie, constate Julien Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel. Mais parce que les gens veulent continuer à voyager dans un contexte économique plus difficile et avec un budget restreint, Cuba entre dans l'équation. On va les diriger vers les bonnes chaînes, celles qui ont des ententes négociées avec plus de stabilité pour ce qui est de l'approvisionnement. Je ne te raconterai pas de salade, ça reste très inégal. L'expérience ne sera pas pareille d'une semaine à l'autre. Où on se sent plus pauvre? Suisse. Coût de la vie, 71,2% plus élevé qu'au Canada. Trio dans un resto rapide, 24,36 $, 15 $ au Canada. Hôtel 3 étoiles pour 2, 5 juillet, de 272 $ à 795 $. Bon nombre de Québécois rêvent d'aller au pays des montagnes, du chocolat et des montres coûteuses. La destination est sûre, calme, propre, avec des paysages époustouflants. Et lorsque la caissière à l'épicerie vous demandera si vous voulez un cornet, sac, pour transporter vos achats, vous aurez aussi le souffle coupé en regardant votre facture. Aliments, hôtels, restaurants, transports publics, vêtements, tout est plus cher en Suisse. La Suisse, c'est traumatisant, affirme Marie-Julie Gagnon. Ce n'est pas rare d'acheter du chocolat pour 100 $. Le salaire moyen des Suisses est nettement plus élevé que celui des Canadiens. Islande. Coût de la vie, 48% plus élevé qu'au Canada. Trio dans un resto rapide, 26,92 $, 15 $ au Canada. Hôtel 3 étoiles pour 2, 5 juillet, de 209 $ à 548 $. La célèbre destination des volcans au nom imprononçable, des geysers, du Blue Lagoon, plongé dans le noir plusieurs mois par année, mais qui offre un soleil de nuit en été, a toujours coûté cher, sauf lors de la crise économique de 2008. Lorsqu'il y avait un vol direct à bas prix Montréal-Reykjavik, les gens disaient « Tant pis si ça coûte plus cher là-bas, parce que le billet n'est vraiment pas cher. » Mais le transporteur islandais à bas prix Wow Air a fait faillite, rappelle la chroniqueuse Voyage Marie-Julie Gagnon, qui indique l'importance dans l'équation du billet d'avion. À l'inverse, partir en Asie pour une courte période ne vaudra pas la peine à cause du prix du billet d'avion. Île Caïman. Coût de la vie, 86,2% plus élevé qu'au Canada. Trio dans un resto rapide, 20,75 $, 15 $ au Canada. Hôtel 3 étoiles pour 2, 5 juillet, de 283 $ à 497 $. Dans cette région des Caraïbes, Antigua, Barbade, les îles Caïmans, ce sont des pays qui recherchent du tourisme de luxe, observe Justin Bordelot. Ils veulent jouer la carte du profil du voyageur avec des prix qui ne sont pas accessibles pour tout le monde. C'est un choix stratégique. Ceux qui vont là-bas avec leur beau grand voilier et dans leur deuxième résidence secondaire de paradis fiscal ne craignent pas les restaurants chers et aiment les petites boutiques de type Chanel. Norvège et autres pays scandinaves. Coût de la vie, 26,2% plus élevé qu'au Canada. Trio dans un resto rapide, 18,88 $, 15 $ au Canada. Hôtel 3 étoiles pour 2, 5 juillet, de 130 $ à 350 $. Les spectaculaires fjords de la Norvège font rêver et n'ont rien à voir avec celui du Saguenay, désolé. Oui, les Québécois ont souvent envie d'aller dans les pays scandinaves pour diverses raisons. Les paysages, l'architecture innovante, leur modèle de société, les Vikings, la Laponie ou le groupe ABBA. Or, les pays scandinaves n'ont jamais été abordables pour les Canadiens. Les taxes sont élevées car elles servent à financer le modèle de société qui fournit une meilleure qualité de vie, mais les salaires des Scandinaves sont généralement plus élevés. États-Unis. Coût de la vie, 11,3 % plus élevé qu'au Canada. Coût de la vie? 72,0 % plus élevé à New York qu'à Montréal. Trio dans un resto rapide? De 15,83 à 17,26 à New York, 15 au Canada. Hôtel 3 étoiles pour 2, 5 juillet, de 275 à 657 à New York. Avant, tout le monde allait aux États-Unis et ne calculait le taux de change qu'en ajoutant un petit pourcentage et c'était correct. Mais plus maintenant, constate Andrew Damour, avec l'inflation qu'il y a aux États-Unis, tout est rendu cher. Et combiné au taux de change, c'est fou. C'est aussi trompeur, parce que tu te dis que c'est proche et que tu n'as pas besoin de payer de billets d'avion, mais après 2 jours, tu te rends compte que tu aurais dû payer un billet d'avion pour aller dans une destination plus loin et moins chère. Avec le contexte actuel, c'est une raison de plus de ne pas y aller. Méthodologie. Nous avons consulté les taux de change, HelloSafe, Milesopedia, Trivago, l'indice Big Mac, Numbeo, fournisseur de données participatives sur le coût de la vie dans divers pays du monde, et 4 spécialistes en voyage pour comprendre ce que les voyageurs québécois recherchent. Nos experts, Marie-Julie Gagnon, autrice de livres sur les voyages, chroniqueuse voyage, Sandra Trépanier, conseillère en voyage sur mesure chez Explorateur Voyage, Andrew Damour, cofondateur de Flight Trippers, qui aide les Canadiens à voyager plus pour moins, Justin Bordelot, président de Voyage Arc-en-Ciel à Trois-Rivières et à Shawinigan Sud. C'était « Où peut-on en avoir plus pour son dollar? » un texte d'Isabelle Dubé, paru le 23 mars 2025 dans La Presse.
Les alliés du Canada sortent de l'ombre aux États-Unis, un texte de Marco Fortier paru le 22 mars 2025 dans Le Devoir. Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a décrété une journée de l'amitié avec le Canada samedi le 15 mars 2025. Il a hissé le drapeau canadien au Parlement de l'État américain. En soirée, le Capitole coloradien a été illuminé aux couleurs rouge et blanc de l'unifolié en l'honneur des liens étroits entre l'Ouest américain et son voisin du Nord. En faisant flotter le drapeau canadien, nous démontrons qu'en travaillant ensemble, même dans des temps difficiles, nous faisons croître notre économie pour améliorer la vie des gens dans nos deux pays. Je suis reconnaissant envers nos amis canadiens du Nord et je compte célébrer chaque année la journée de l'amitié Colorado-Canada, a lancé le gouverneur démocrate de cet État de 6 millions d'habitants. Il juge insensé la guerre tarifaire et les menaces d'annexion du Canada par Donald Trump. Pas moins de 18% des exportations du Centennial State vont vers le Canada, souligne-t-il. Et 272 entreprises canadiennes donnant du travail à 21 000 personnes ont pignon sur rue dans cet état des rocheuses américaines. Le gouverneur Polis n'est pas le seul à s'indigner des gestes décrits comme « destructeurs » de Donald Trump. Après le choc initial et la stupeur devant l'avalanche de décrets présidentiels, la résistance contre le rouleau compresseur MAGA « Make America Great Again » semble s'organiser aux États-Unis. Et le gentil voisin du Nord, oui, c'est le Canada, apparaît tranquillement sur l'écran radar des Américains. Pour des raisons évidentes, la plupart des Américains n'ont pas autant d'intérêt pour le Canada que les Canadiens en ont pour nous. On éternue, vous attrapez un rhume, mais notre intérêt est généralement très amical, souligne Elliot A. Cohen, professeur d'études internationales à l'Université Johns Hopkins à Baltimore. Ce spécialiste de l'histoire militaire, qui a travaillé pour les départements d'État et de la Défense, affirme avoir honte de son président. « Ça me sidère que mon pays ait réélu cet homme totalement inapte. Je suis déterminé à le dénoncer avec toute la vigueur possible. On va s'en sortir. On a traversé de pires moments. » mais on devra réparer énormément de pots cassés, indique-t-il dans un échange de courriel avec Le Devoir. Faible risque d'invasion. Donald Trump a beau s'acharner contre le Canada, ce pays qu'il décrit comme « méchant et vicieux », Elliott et Cohen estiment « très faible » le risque d'intervention militaire américaine en sol canadien. Ils croient que le président se contentera d'essayer de détruire l'économie canadienne dans l'espoir vain d'en faire le 51e État américain. Le Congrès, qui ferme les yeux pour le moment sur les gestes autocratiques du président, aurait plus de réticence à appuyer une décision aussi lourde de conséquences qu'une invasion du Canada, affirme le spécialiste des relations internationales. Les législateurs pourraient couper les fonds dans l'éventualité où Trump déclencherait un mouvement de troupes sans déclaration de guerre. Signe des temps, le représentant démocrate Seth Magaziner, du Rhode Island, vient de déposer un projet de loi visant à empêcher Trump d'agir. La loi, No Invading Allies Act, interdirait le financement de toute opération visant à s'emparer de territoire au Canada, au Panama ou au Groenland sans l'autorisation du Congrès. Tous les Américains décents seraient atterrés et s'opposeraient à une opération armée au Canada, explique Elliott A. Cohen. Les isolationnistes et certains lobbies seraient aussi contre. L'armée américaine va se conformer à des ordres légaux. Le président a beaucoup de pouvoir discrétionnaire, mais il y aurait énormément de résistance passive. Des Canadiens coriaces. Chose certaine, Elliott A. Cohen prévient que les Américains risqueraient de frapper un mur en s'attaquant au Canada. Dans une analyse parue dans The Atlantic, il décrit les Canadiens comme des batailleurs coriaces malgré leur légendaire bonhomie et malgré leur désavantage numérique face aux géants américains, comme on dit au hockey. Un esprit combatif est en voie de se réveiller au Nord, écrit-il. L'historien recommande au secrétaire à la Défense Pete Hegseth de prendre connaissance de la célèbre bataille de la Châteauguay avant d'envisager une conquête du Canada. Le ministre se ferait rappeler qu'en octobre 1813, une poignée de miliciens d'origine canadienne et autochtone, commandée par Charles-Michel de Salaberry, avait repoussé des soldats américains nettement supérieurs en nombre. Toutes les tentatives des États-Unis de s'emparer du Canada en 1775, durant la guerre de 1812 et plus tard au fil du 19e siècle, ont échoué lamentablement, souligne Elliott A. Cohen. En cas d'annexion, les 40 millions de Canadiens formeraient l'État américain le plus grand et le plus peuplé, rappelle l'expert en études stratégiques. Cela causerait pas mal de problèmes à Trump et à ses amis parce que les gentils voisins du Nord sont plus progressistes que les Américains. Les électeurs et les élus de l'État canadien risqueraient de faire pencher la balance électorale du côté démocrate. Vous écoutez? Les alliés du Canada sortent de l'ombre aux États-Unis. Un texte de Marco Fortier paru le 22 mars 2025 dans Le Devoir. Confiance brisée. Les discours hostiles de Trump envers l'allié canadien inquiètent aussi le sénateur californien Adam Schiff. L'élu démocrate a diffusé récemment une vidéo où il pourfend les bouffonneries du président. Donald Trump est capable d'émettre des idées bizarres, mais le Canada, en tant que 51e État, atteint un autre niveau de folie. Je peux vous dire que les probabilités que ça arrive sont de moins que zéro. Ça n'arrivera pas, dit le sénateur qui a mené la charge contre Trump au sein de deux influents comités sur la première tentative de destitution du président et sur l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. Trump a juré de se venger de Schiff et de tous les élus, fonctionnaires, juges ou autres responsables de la justice ayant agi d'une façon ou d'une autre contre ses intérêts personnels. Ça n'empêche pas le sénateur de dénoncer le président, entre autres pour son manque de respect envers le Canada. Adam Schiff a cité le nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a évoqué les jours sombres provoqués par un pays en qui on ne peut plus avoir confiance. Il a raison. Un pays en qui on ne peut plus avoir confiance, c'est le Canada qu'il dit. Un de nos plus grands alliés qui a combattu aux côtés de nos troupes en Afghanistan et ailleurs. C'est le monde à l'envers. On provoque nos voisins démocratiques, on se met à dos nos alliés en Europe et on se rapproche de dictateurs comme Vladimir Poutine. Ça ne peut pas bien finir. L'Amérique n'aura plus d'amis, sauf des dictateurs. Des menaces sérieuses. Les ennemis de Trump se trouvent aussi parmi les sympathisants républicains. Steve Schmidt, ex-conseiller du défunt sénateur John McCain, est l'un des plus ardents adversaires du président. Dans un récent texte d'opinion, cet ancien républicain qui a tourné le dos au Grand Old Party en 2018 en raison des facéties de Trump, livre un vibrant plaidoyer pour le Canada. Il est temps qu'on prenne au sérieux les fanfaronnades du gangster de la Maison-Blanche contre le Canada, écrit Schmidt. En tant que voyou et intimidateur, Trump ne croit qu'à la force brute, rappelle l'ex-stratège républicain. Le président est en train de répudier toutes les organisations garantes du droit international. Trump attaque sans relâche la souveraineté canadienne et la liberté de 40 millions de personnes. On doit prendre acte de ses intentions et comprendre que s'il pouvait faire tout ce qu'il dit, il le ferait sans délai. En échouant à s'opposer avec force à ses folies, on ne fait que l'encourager à continuer ses agressions, prévient Steve Schmidt. Il appelle la nation à faire barrage au mouvement MAGA. Sinon, les Américains seront tous coupables de ces crimes. C'était « Les alliés du Canada sortent de l'ombre aux États-Unis », un texte de Marco Forti paru le 22 mars 2025 dans Le Devoir.
Haïti, la jeunesse refuse de voir le pays sacrifié, un texte d'Annick Chalifour paru le 29 mars 2025 dans l'Express.ca. Rencontre Edu, Rencontre pour émergence durable et universelle, est une organisation haïtienne à but non lucratif et apolitique, portée par un groupe de jeunes, 18-35 ans, étudiants, universitaires, entrepreneurs, conscients des défis majeurs auxquels Haïti fait face. Engagée à promouvoir l'éducation et l'inclusion citoyenne pour la jeunesse haïtienne, l'organisation refuse de voir leur avenir sacrifié, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs amis succomber face à la négligence des dirigeants. Le pays s'enlisant dans une crise multidimensionnelle sans fin, paralysé par la prise en otage de Port-au-Prince par les gangs armés, la direction de Rencontre Edu a rédigé une lettre d'appel à l'urgence d'agir, s'adressant à l'État, la population haïtienne, les institutions haïtiennes, la communauté internationale. Lukendi Janvier, PDG fondateur de l'organisme, me l'a fait parvenir pour publication. En tant qu'organisation de jeunes universitaires engagés, Rencontre Edu, 5 ans d'existence, qui relie les universitaires des institutions publiques et privées d'Haïti, se voit dans l'obligation de tirer la sonnette d'alarme face à la situation catastrophique que traverse notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, Haïti sombre dans une crise multidimensionnelle qui menace non seulement notre présent, notre avenir, mais aussi notre parcours historique, plus qu'héroïque. Cette lettre ouverte vise à exposer en détail les réalités vécues dans les zones les plus touchées par l'insécurité, à interpeller l'État, à mobiliser la population et à appeler toutes les institutions du pays à unir leurs forces pour combattre ce fléau. Une crise économique sans précédent. Selon les rapports de la Banque mondiale 2024 et du Fonds monétaire international 2024, Haïti connaît une inflation annuelle dépassant les 25 % plongeant plus de 60 % de la population dans l'extrême pauvreté. Le taux de chômage atteint des sommets alarmants avec plus de 70 % des jeunes sans emploi formel. La gourde continue de se déprécier face au dollar américain, rendant l'accès aux produits de première nécessité presque impossible pour une grande partie de la population. Cette crise économique frappe particulièrement les zones comme Carrefour-Feuilles, Delma, Tabar, ainsi que d'autres départements, où les commerces sont paralysés par l'insécurité et où les familles peinent à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Une crise humanitaire grandissante. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 2024, estime que 5,2 millions d'Haïtiens, soit près de la moitié de la population, ont besoin d'une assistance humanitaire urgente. La malnutrition infantile atteint des niveaux critiques, avec plus de 22 % des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë. L'accès à l'eau potable et aux soins de santé reste un défi majeur, exacerbé par l'effondrement des infrastructures publiques. Un phénomène que l'on constate particulièrement dans un quartier comme Solino, aujourd'hui déserté. Dans d'autres zones sous contrôle des gangs, les hôpitaux et les centres de santé sont souvent inaccessibles en raison des barrages routiers, seul rempart contre la violence armée. L'insécurité généralisée, un fléau qui paralyse le pays. Haïti, autrefois perle des Antilles, devient aujourd'hui un berceau de la criminalité. Selon le rapport de l'ONU, 2024, plus de 2500 homicides ont été enregistrés en 2023 et les enlèvements ont augmenté de 80 % par rapport à l'année précédente. Les gangs armés contrôlent près de 60 % de la capitale, paralysant ainsi les activités économiques et empêchant l'accès aux services essentiels. Carrefour-Feuilles. Ce quartier autrefois animé est aujourd'hui une zone de non-droit. Les gangs y imposent leurs lois, terrorisant les habitants et empêchant toute activité économique. Centre-ville. Le cœur historique de Port-au-Prince est devenu un champ de bataille. Les commerces sont pillés et les institutions publiques sont incapables de fonctionner. Solino. Les habitants de ce quartier vivent dans la peur constante des violences et des enlèvements. Les écoles et les églises ont été fermées et les déplacements sont extrêmement risqués. Delma 24 et Delma 30, ces zones autrefois dynamiques, sont aujourd'hui des bastions de gangs. Les résidents sont pris au piège, incapables de se déplacer librement. Tabar. Même les zones considérées comme plus sûres sont désormais sous la menace des gangs, avec des attaques fréquentes et des enlèvements en plein jour. Le drame des déplacés internes. Le Conseil norvégien pour les réfugiés, 2024, rapporte que plus de 200 000 Haïtiens sont actuellement déplacés à l'intérieur du pays en raison de la violence et des catastrophes naturelles. Ces déplacés vivent dans des conditions inhumaines, sans abri adéquat, sans nourriture ni soins médicaux. Une éducation en péril. L'UNICEF 2024, quant à elle, souligne que plus de 1500 écoles ont été fermées ou affectées par la violence et l'insécurité, privant ainsi des centaines de milliers d'enfants de leur droit à l'éducation. Les universités ne sont pas épargnées, avec des étudiants et des professeurs contraints de fuir leurs établissements sous la menace des gangs. Face à ce fléau, nous aimerions savoir combien de victimes devrons-nous déplorer avant que des mesures concrètes ne soient prises. Avec plus de 2500 homicides en 2023, selon l'ONU, combien de morts supplémentaires faudra-t-il pour que l'État et la communauté internationale agissent de manière décisive? Combien de filles et de femmes devront être violées avant que la justice ne soit rendue? Les rapports des organisations humanitaires révèlent une augmentation alarmante des violences sexuelles, en particulier dans les zones contrôlées par les gangs. Combien de vies brisées seront nécessaires pour que des mesures de protection efficaces soient mises en place? Combien d'écoles devront fermer leurs portes avant que l'éducation ne devienne une priorité? Avec plus de 1500 écoles fermées, selon l'UNICEF, combien d'enfants supplémentaires devront être privés de leur droit à l'éducation avant que des actions concrètes ne soient entreprises? Combien de déplacés internes devrons-nous compter avant que des solutions durables ne soient trouvées? Avec plus de 200 000 déplacés, selon le NRC, combien de familles supplémentaires devront vivre dans des conditions inhumaines avant que des mesures d'assistance et de réinstallation ne soient mises en œuvre? Combien de quartiers devront tomber sous le contrôle des gangs avant que la sécurité ne soit rétablie? Avec près de 60 % de la capitale sous contrôle des gangs, selon l'ONU, combien de zones supplémentaires devront être perdues avant que des actions militaires et policières coordonnées ne soient lancées? Notre appel à l'action. 1. Au Conseil présidentiel de transition et au gouvernement, prenez vos responsabilités. Mettez en place des politiques publiques efficaces pour rétablir la sécurité, relancer l'économie et garantir l'accès aux services de base. Renforcer les institutions de sécurité et de justice pour qu'elles puissent lutter efficacement contre les gangs et protéger les citoyens. Investissez dans des programmes sociaux pour soutenir les populations les plus vulnérables, en particulier dans les zones les plus touchées par l'insécurité. 2. À la population haïtienne, restez unis et solidaires face à cette crise. La collaboration entre les communautés est essentielle pour surmonter cette épreuve. Défendez vos droits et refusez de céder à la peur. La résilience du peuple haïtien est notre plus grande force à la dimension de notre histoire. 3. À toutes les institutions du pays, unissez-vous pour combattre ce fléau d'insécurité. Les secteurs publics et privés, les organisations de la société civile, les églises et les médias doivent travailler main dans la main pour rétablir la paix et la stabilité. Soutenez les initiatives visant à renforcer l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes, car ce sont les piliers d'un avenir meilleur pour Haïti. 4. À la communauté internationale, renforcez votre soutien à Haïti non seulement par des aides d'urgence, mais aussi par des investissements durables dans la sécurité, l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes. Appuyez les efforts locaux pour rétablir la sécurité et la justice en respectant la souveraineté et les priorités du peuple haïtien. Nous, jeunes universitaires, refusons de voir notre avenir sacrifié. Nous refusons de voir nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis succomber face à la négligence de nos dirigeants. Nous croyons en une Haïti où l'éducation, la justice et la paix sont accessibles à tous. Mais pour y parvenir, il faut agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. En solidarité envers une population assoiffée. C'était « Haïti, la jeunesse refuse de voir le pays sacrifié », un texte d'Annick Chalifour, paru le 29 mars 2025 dans l'Express.ca.
Les artistes du grand spectacle IMIX dévoilés. Un texte de Logan Cartier paru le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue. Le Festival Fierté Montréal vient de lever le rideau sur un premier spectacle de l'édition 2025. Et quelle meilleure façon de le faire qu'avec IMIX, le spectacle légendaire qui s'installera dans un tout nouveau décor. En effet, le dimanche 3 août prochain, IMIX se tiendra dans un tout nouveau décor et prendra d'assaut l'esplanade tranquille du quartier des spectacles pour une soirée électrisante sous les étoiles. Ce rendez-vous musical incontournable rassemblera sur scène une impressionnante brochette d'artistes d'ici aux univers aussi riches que variés. Préparez-vous à des performances mémorables de Martine Sinclair, Safia Nolin, Gabrielle des Trois Maisons, Lisa Leblanc, Lenny Kim, Calamine, Tabby Yosha, Kinked, Fernie et Angelo, accompagnés par un orchestre maison. Martine Sinclair. Après plus de 40 ans de carrière, Martine Sinclair continue d'émouvoir et de fasciner. Lauréate du Félix de la Révélation de l'année en 1981 sans avoir encore sorti d'album solo, son talent est indéniable. Ce succès marque le début d'une carrière impressionnante. 13 albums, plus d'un million d'exemplaires vendus, 48 simples dont 13 numéro 1 à la radio, 23 nominations à la disque et de nombreux prix prestigieux. En 2023, l'artiste revient en force. Partout présente, elle triomphe avec une tournée à guichets fermés à travers le Québec. Son single « Prends-moi dans tes bras », coproduit avec Vito Luprano, souligne un tournant marquant alors qu'elle en signe elle-même le texte. Avec sa voix puissante et sa présence scénique inoubliable, la Cristal de Starmania demeure une figure incontournable de la chanson québécoise. Safia Nolin. Safia Nolin, figure singulière de la scène artistique contemporaine, incarne une voix politique puissante. Son parcours est celui d'une quête identitaire, une exploration de la différence et de la marginalité. En tant que femme racisée, lesbienne et artistiquement non conforme, elle défie les normes et les attentes sociétales. Son esthétique, à la fois brute et poétique, est une célébration de l'imperfection et de l'authenticité. Dans son nouvel album, UFO Religion, Safia Nolin exprime un sentiment d'aliénation profonde, un désir de s'échapper d'un monde qui ne la reconnaît pas. À travers des mélodies minimalistes et une instrumentalisation brute, elle livre une œuvre introspective où se mêlent la mélancolie et l'espoir. Son album témoigne d'un processus de transformation, d'une renaissance artistique. Nolin, telle une chrysalide prête à éclore, se libère de ses chaînes pour s'affirmer pleinement. Sa musique, à la croisée du folk, du grunge et du stoner, est une invitation à un voyage intérieur, un appel à l'authenticité. Gabrielle des Trois Maisons. Gabrielle des Trois Maisons est une artiste talentueuse qui a su conquérir le cœur du public dès ses débuts. Son album « Etc. » qu'elle a lancé à l'âge de 17 ans a marqué le commencement d'une belle carrière, s'étant vendue à plus de 100 000 exemplaires. Gabrielle a d'ailleurs remporté le Félix de la Révélation de l'année à disque en 2001. Elle a également brillé dans plusieurs comédies musicales, comme Notre-Dame de Paris et Dracula. En juin 2023, elle propose une version acoustique de la chanson « Etc. », 20 ans après la sortie de la version originale. En novembre dernier, elle a remporté les honneurs lors de l'édition 2024 de l'émission « Chanteur masqué » grâce à ses performances vocales éblouissantes. Gabrielle est une artiste au talent incomparable. Lisa Leblanc. Lisa Leblanc se fait remarquer après sa victoire au Festival international de la chanson de Granby et le succès fulgurant de son premier album en 2012, certifié platine. Avec son style roots rock country brut, elle décroche plusieurs prix, dont celui de la révélation de l'année à la disque et au Gamic. Elle explore ensuite l'anglais avec Highways, Heartaches and Time Well Wasted, 2014, et Why You Wanna Leave, Runaway Queen, 2016, ce dernier étant en lice pour le prix Polaris. Après une pause en 2019, elle co-réalise des albums pour Jacques Surette et Edith Butler, avant de dévoiler Chiac Disco 2022, un hommage disco-funk audacieux qui lui vaut plusieurs distinctions, dont un Félix pour l'album pop de l'année. Forte de tournées en Europe et aux États-Unis, elle revient en 2024 avec Live, avec l'Orchestre symphonique de Québec, un projet grandiose où elle revisite son répertoire avec 63 musiciens, alliant simplicité et extravagance. Lenny Kim. Lenny Kim est un chanteur, auteur, compositeur et acteur québécois qui s'est fait remarquer en France grâce à sa musique, avant d'élargir son rayonnement au Québec. Salué par Metal Magazine comme un artiste à suivre de près, il continue de surprendre par son audace créative. En mai 2025, il dévoilera Adrenaline, un micro-album anglophone qui marque un tournant dans sa carrière en tant qu'artiste indépendant. Très attendu, cet opus inclura plusieurs titres déjà révélés, dont Things I Want, See Me Now et Adrenaline. En parallèle, il brille à l'écran. Nommé aux Gémeaux 2024 pour son rôle dans la série Femme, il reprendra ce personnage dans la saison 2 attendue pour fin 2025. Entre musique et cinéma, Lenny Kim s'impose comme une voix et une présence incontournable de sa génération. Calamine. Calamine est une rappeuse queer, féministe et anticapitaliste basée à Montréal. Révélation Radio-Canada, lauréate du prix Félix Leclerc et double gagnante du Gamic pour ses albums Bulletproof et Lesbian Woke sur l'autotune, elle s'est rapidement taillée une place de choix dans le paysage hip-hop québécois. Connue pour ses textes engagés et son flow sans compromis, elle a fait vibrer les scènes des Franco de Montréal, du Festival d'été de Québec, du FME et bien d'autres, autant au Québec qu'en France. En 2024, elle a dévoilé son troisième album, Décroissance personnelle, toujours en tandem avec son complice Keith Magan. Entre humour grinçant et lucidité politique, Calamine continue de secouer les conventions une rime à la fois. Tabi Yosha. Tabi Yosha est une chanteuse québécoise d'origine haïtienne à la voix riche et puissante. Après des débuts marqués par des collaborations avec la scène hip-hop et électro, elle façonne aujourd'hui un R&B teinté de néo-soul, explorant l'amour et la séduction avec authenticité. Formée en chant, théâtre et danse, elle s'est illustrée avec le groupe The Soldiers et en solo, notamment à Femmes en Blues et au Sugar Bar de New York. Elle a aussi prêté sa voix à Aquanaut 2022 d'Ariane Moffat, nommée au gala de la disque. En 2023, elle dévoile True Colors, un premier micro-album inspiré de relations amoureuses marquantes. Après avoir atteint les demi-finales de Quel talent, Tabi revient avec True Lies, annonçant la suite de son univers musical. Kinked. On reconnaît les frères Kinked par leur chanson indie pop au groove indéniable. En 2018, les jumeaux originaires de Québec se démarquent sur les radios avec 1995, un premier micro-album aux influences indie folk rock. En 2020, ils définissent leur identité musicale pop grâce à l'album Migration, succès critique et populaire, qui leur vaut une nomination à la disque dans la catégorie Album Pop en 2021. 4 ans plus tard, Henri et Simon sont de retour avec un album homonyme réalisé par leur complice Simon Kearney, où ils façonnent la langue de Molière à l'image des grands bands des années 70-80 qu'ils écoutaient enfants. Mélodie inoubliable à la Bee Gees, harmonie vocale à la Beau Dommage et groove rétro grouillant à la Fleetwood Mac sont au cœur de cet album conçu pour des spectacles festifs, rappelant les soirées de karaoké enivrantes qui s'étirent jusqu'aux petites heures. Fernie. Montréalais aux racines brésiliennes, Fernie a fait paraître son premier album Aurora à l'automne 2021, un assemblage de propos vulnérables, de soul émancipé et de R&B mélodieux, vibrant d'inclusion et de subtiles nuances de mélancolie des années 90. Un processus de 3 ans, à travers lequel l'artiste queer a d'abord cherché à être perçu comme une personne à part entière, pour un album mené par une voix agile qui narre et lie le passé, le présent et l'avenir. Tout au long de la dernière année, Fernie a pu faire une tournée au Québec, jouant des festivals tels que Oceaga, Festival de jazz de Montréal, FEQ, Pop Montréal, etc. Les titres New Beginnings et Back There ont beaucoup tourné sur les radios Sirius XM. L'automne dernier, Fernie lançait un mini-album, Hopeless Dreams, où l'on retrouve entre autres Pain. Angelo. Angelo est un artiste montréalais d'origine vénézuélienne, dont l'univers musical fusionne les influences de la pop, du rock, de l'électro-dance, du hip-hop et du latin-pop. Producteur, chanteur et auteur-compositeur, il puise dans ses expériences personnelles, ses histoires d'amour, sa sexualité et son identité pour créer une musique vibrante et authentique. Chaque morceau est une exploration de son âme, un mélange subtil entre émotions brutes et énergie festive. Dans ses créations, Angelo fait danser tout en touchant le cœur, offrant une expérience sonore aussi profonde que stimulante. Spectacle 100% gratuit, Imix célèbre la diversité musicale et identitaire dans toute sa splendeur. Un événement à ne pas manquer. Info. Imix sera présenté le dimanche 3 août 2025, 20h30, dans le cadre de Fierté Montréal, sur la scène Loto-Québec de l'Esplanade Tranquille, dans le quartier des spectacles. C'était les artistes du grand spectacle Imix dévoilé, un texte de Logan Cartier paru le 27 mars 2025 dans le magazine Fugue.
Geneviève Brouillette, Ouvrir son cœur, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 10 février 2025 dans Les libraires. On l'a vu interpréter plusieurs rôles avec brio, tant à la télévision, Rumeur, Apparence, District 31, qu'au grand écran, Nuit de noces, Liste noire. Aguerrie dans sa carrière d'actrice, Geneviève Brouillette franchit cependant cet hiver ses tout premiers pas à titre d'autrice avec Traverser la tempête avec un sombrero, Druide, dans lequel Julie Beausoleil, productrice d'un jeu questionnaire populaire, s'exile quelque temps de Montréal au Mexique afin de faire le point sur un faux pas qui entraîne de lourdes conséquences. Entretien avec une primo-romancière de talent et une fervente lectrice de longue date. Avant même l'entrevue, on apprend l'origine de la passion de Geneviève Brouillette pour les livres, puisqu'en tournant les premières pages de son roman, on y trouve cette phrase « À maman, qui m'a initiée aux joies de la lecture, m'offrant ainsi le secret d'une vie à l'abri du désespoir. Ma mère, à 89 ans, continue à lire. Je lui refile tous mes bouquins. Elle s'intéresse encore à tout. Elle m'amenait à la bibliothèque quand j'étais jeune, et je me rappelle le soir me relever de mon lit pour aller l'espionner. Ouf, tout le monde est couché, ma mère est assise à la cuisine, et elle lit. Enfin, c'est son moment. » De mère en fille, l'émoi pour la lecture se transmet, et la comédienne, qui se définit comme une lectrice compulsive, a toujours en cours 3 ou 4 livres à la fois. La lecture, c'est vraiment ta liberté. Il y a quelque chose de si intime entre la voix de l'auteur et l'intérieur de la personne qui la reçoit. Le mouvement créateur. À 17 ans, lorsqu'elle entre à l'école de théâtre, Geneviève Brouillette se met au grand classique et dévore tout ce qu'elle peut. Puis, elle est marquée par « Les racines du ciel », premier Goncourt de Romain Gary, dont elle lira plusieurs autres œuvres, tant ce fut une rencontre déterminante. Dans sa vingtaine, elle découvre Philippe Tian avec 37-2 le matin, une relation tumultueuse où Betty et Zorg naviguent entre fièvre et insatiabilité. Elle est une fois de plus sous le choc quand elle plonge dans Victor Hugo et Alexandre Dumas. C'est moderne, mais avec une plume et une grâce et une profondeur incroyable. Dans un autre genre, Stephen King, avec qui elle souhaiterait partager quelques heures de conversation à propos de l'écriture, représente également un écrivain phare pour notre invité. Dédaigné par certains, peut-être parce qu'il écrit de la littérature de genre, il n'en est pas moins, selon Brouillette, un raconteur hors pair. Je pense que c'est un des auteurs qui a le mieux parlé de l'Amérique et décrit son peuple. Elle mentionne son livre, Billy Summers, mettant en scène un tueur à gages aux principes vertueux qui, campé à la fenêtre d'un appartement faisant face à l'immeuble de la prochaine victime, attend le coup de fil d'alerte, l'autorisant à passer à l'action. Profitant des longues heures où il patiente, le personnage se met à l'écriture d'un roman. Il se passe peu de choses pendant de nombreuses pages, mais King réussit à garder sa lectrice captive. D'ailleurs, au moment de rédiger son propre roman, celle-ci se rapporte au conseil du maître, glané dans son livre « Écriture, mémoire d'un métier ». Elle participe aussi à un atelier donné par la dramaturge Nathalie Boisvert, ce qui lui confère un cadre lui permettant d'échafauder des thèmes, des personnages, des actions et une routine de travail aboutissant à la mise en forme de ce premier roman. La source de création est la même pour jouer que pour écrire. Ça part de la même place, au milieu du ventre. Il y a quelque chose de presque indépendant de notre volonté qui a envie d'exister. Avec la certitude qu'il faut s'abandonner à cet élan, reste ensuite à s'atteler à la besogne, ce qui demande bien des heures au compteur et des ratures sur la feuille. Aller au bout d'une promesse qu'on s'est faite à soi-même, c'est extrêmement gratifiant. L'infinie bibliothèque. Pour écrire, il faut en général avoir beaucoup lu, ce qui est loin de manquer au curriculum vitae de l'actrice qui convoque au panthéon de ses meilleures lectures les œuvres de Michel Folcault. Dans « Dieu et nous seuls pouvons », roman parsemé d'humour d'un auteur sachant manier la langue avec rythme et style, Justinien Pibrac devient le bourreau de toute une descendance qui lui succédera. Le roman en trois tomes, 1Q84 du japonais Haruki Murakami, s'édifiant par une écriture simple, nous amenant subtilement aux confins du fantastique et du mystère, mérite pareillement une excellente note de la part de Geneviève Brouillette. Elle poursuit en évoquant « Le cœur synthétique » de Chloé Delhomme, livre qui a permis à l'autrice d'obtenir le prix Médicis en 2020. Adélaïde, une femme dans la quarantaine, pense les plaies de sa rupture amoureuse en se jetant dans le boulot et en passant du temps avec les amis. Elle aimerait bien vivre la situation la tête haute, libre et indépendante comme une femme devrait l'être, mais elle constate qu'elle n'est déjà plus très fraîche pour le marché de la séduction et que ses chances de rencontrer un nouvel homme périclitent dangereusement. Du Delhomme à son meilleur, c'est-à-dire critique, drôle et émouvante. Toujours dans l'inventaire des livres aimés de la comédienne, on trouve La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot, fresque contemporaine réunissant plusieurs personnages en quête d'amour et d'eux-mêmes, qui aura valu à l'écrivaine le prix des libraires du Québec en 2020. Puis il y a Chanson douce, écrit par Leïla Slimani et ayant celui-là remporté le Goncourt en 2016, qui relate dans une mélopée superbe l'histoire pour le moins horrible d'une nounou tuant les enfants qui lui sont confiés. Réitérant son affection pour les livres poignants, Geneviève Brouillette pointe « Seul le silence » de R.J. Ellory, une référence en matière de thriller, et qui confirme, si cela restait encore à prouver, qu'un roman noir peut s'avérer tout aussi grandiose que n'importe quel autre. Quant au pavé Fane de la Montréalaise Anne-Marie MacDonald, elle le conseille particulièrement à ceux et celles entretenant un malaise avec la fluidité des identités de genre. Pourtant, ça a l'air d'un roman écrit par les sœurs Bronte. Ça se passe dans les années 1800, dans les plaines de l'Écosse, mais c'est très moderne, très humain. Et pour les rébarbatifs à l'immigration, elle recommande « Là où je me terre » de Caroline Dawson, le récit d'une sociologue québécoise d'origine chilienne, arrivée en terre d'accueil dans l'enfance et témoignant, issue de sa nouvelle appartenance, de ses stigmates comme de ses sincères alliances. Pas loin de chez elle, elle visite la librairie « N'était-ce pas l'été ?» en plus quel joli nom, où elle va s'abreuver et si elle est au chalet, la librairie GGC de Magog lui sert d'endroit fétiche. Et elle ne boude aucun plaisir, pas même celui de la bande dessinée, mentionnant la série « L'Arabe du futur », incroyable mais véridique biographie du franco-syrien Riyad Satouf, qu'elle a même offerte à quelques reprises. Dans une veine plus documentaire, mais toujours avec l'œil personnel du créateur, Chronique de Jérusalem de Guy Delisle figure en bonne position sur l'interminable liste de l'artiste. La lecture nous apprend à devenir un être humain décent parce que ça nous fait découvrir l'intérieur du cœur des autres. La lecture continuera de réchauffer celui de Geneviève Brouillette. C'était Geneviève Brouillette, Ouvrir son cœur, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 10 février 2025 dans Les Libraires.